4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
La table des bons vivants, le best-of. Laurent Bariotte.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, évidemment.
Et bonne année.
Bonne année, soyez les bienvenus à la table des bons vivants. Bonne santé aussi, hein, évidemment. On vous souhaite
une
très belle année en cuisine, avec de belles découvertes et du plaisir. Olivier Pouls et Yves Courdebord sont avec moi pour ce best-of. C'est une émission spéciale aujourd'hui. C'est le premier jour de 2022. Alors c'est l'occasion de jeter un œil, tiens, dans le rétroviseur et d'écouter les grands moments de la table des bons vivants, parce que mine de rien, ça fait 4 saisons que nous sommes ensemble.
Hein,
et bah si, le temps passe vite, je sais. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs d'ailleurs, au passage. Alors on va revenir aujourd'hui sur les astuces et les recettes pour survivre au lendemain de soirée arrosée.
Hein. Ouais, ça sent le vécu, non?
Oui, avec, oui, absolument. C'est des chefs qui se sont confiés, vous vous souvenez?
Oui, qui racontaient comment ils se remettaient, on dit remettre le facteur sur le vélo.
Oui, dans un livre à Victoire Loup. Et puis on va vous raconter de belles histoires de pâtisserie aussi.
Des éclairs, des millefeuilles, des tartes au citron.
Oui, des Paris-Brest.
Justement. Que du bonheur.
Quelles histoires se cachent derrière nos desserts que le monde entier s'arrache? Et ben vous saurez tout. Et puis Zabou Bretman et Philippe Torreton seront des nôtres. On aime les retrouver au théâtre et au cinéma. Et ils étaient de passage ici pour partager leur coup de fourchette. Et ils en ont de beau, vous allez entendre. Mais tout de suite, on se remet du 31. Petite cure de vitamines avec le pomme locorse, le cousin du pamplemousse, dans un instant. Et pour commencer, alors là, ouvrez les yeux, ou fermez-les plutôt. Direction la Polynésie pour découvrir la vanille de Tahiti. On vous emmène découvrir une fille des îles née d'une belle orchidée, c'est la vanille. Et en cuisine et en pâtisserie, ce qui nous intéresse dans la vanille, c'est la gousse. Hein, nous sommes d'accord, Yves Candebord?
Oui, totalement. C'est vrai que c'est un des produits phares qui nous permet de nous exprimer, d'amener beaucoup, je dirais, de gaieté à nos plats.
Et alors, on va vous donner des idées de recettes, justement, parce que vous verrez que la vanille marche aussi bien côté salé que côté sucré. Mais avant, on va faire un petit peu de géographie avec vous, Olivier Pouls. On va dire, allez, qu'il y a deux grandes zones de culture pour la vanille, parce qu'elle aime la chaleur et l'humidité. Quoi,
ben hein. Voilà, donc la vanille Bourbon dans l'océan Indien, c'est Madagascar, c'est les Comores, et puis bien sûr l'île de la Réunion, où on peut en trouver également. C'est une vanille assez ronde, assez odorante. Et puis la vanille de Tahiti, évidemment. L'une des très belles vanilles aussi, aux senteurs plus acidulées, une vanille très grasse et qu'on retrouve plantée en tout cas dans l'archipel de la Polynésie française, de Bora Bora jusqu'à Tahiti, ça fait rêver. Et j'aurais bien voulu être envoyé là-bas comme reporter.
Oui, c'est vrai, mais ce sera Marion Sauveur, vous allez entendre tout à l'heure. Mais elle y est allée pour la bonne cause, vous entendrez. Alors, on a découvert la vanille au XVIe siècle, mais c'est à partir du XIXe siècle qu'on s'est mis à la cultiver, Yves Candebord.
Oui, tout à fait, les premières traces, c'est les Mexicains au XVIe. Et alors, l'histoire dit que c'est un esclave à La Réunion qui a mis en place, qui a compris le procédé un peu de fécondation de la vanille. Donc c'est vrai que la vanille de la Réunion est une vanille qui est très particulière et qui est une vanille qui est très goûteuse et très, très grasse aussi.
On peut le citer, tiens, il s'appelait Edmond Albius.
Oui, Edmond Albius.
Edmond Albius, c'est lui qui nous a permis de découvrir la vanille en culture. Alors il ne suffit pas de l'accueillir, la vanille, il y a un travail d'affinage. Marion Sauveur a rencontré Vaiana sur l'île Taha, en Polynésie française. Quelque chose me dit qu'il y avait un petit voyage de noces dans le coin, je ne sais pas.
Donc elle travaille pendant ces voyages de noces.
C'est ça, c'est beau, ça, voilà. C'est la passion du métier, ça s'appelle. Direction le lagon pour aller sentir la vanille.
Alors, nous sommes actuellement dans la fameuse plantation de vanille traditionnelle, la Tahitensis, la vanille de Tahiti. La seule variété de vanille, d'ailleurs, qui existe en Polynésie.
Et qui est très grasse. Hein.
Exactement. Les gousses, elles sont toutes vertes. Elles se présentent souvent sous forme de grappes.
Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein.
Par contre, dont elles n'ont pas toutes la même longueur. C'est le pédoncule de la fleur qui devient le bâton de vanille. Donc, plus la gousse, elle se forme, plus la fleur se décompose petit à petit. Donc, moins de fleurs vous en pollinisez, plus la gousse, elle sera longue.
Et quand on ne verra plus cette fleur se décomposer, on pourra cueillir la gousse.
C'est ça. Donc 8 à 9 mois plus tard, on les récolte vertes matures. C'est par rapport aux oiseaux. Les oiseaux, en fait, sont là pour les piquer.
Ah, ce sont des coquins, ils savent ce qui est bon. Hein ouais. Donc on les récolte vertes et on les laisse mûrir.
Elles brunissent une par une. Alors ça peut s'étaler sur 15 jours. Dans un premier temps, elles seront triées. Par la suite, déposées dans des carrés de tissu et exposées au soleil.
Il fait beau aujourd'hui, donc on les fait sécher. Hein.
Alors, je dépose le ballon. Séchoir.
Et là, on l'étale bien, cette vanille.
Exactement. Donc, on la répartit bien sur le carré de tissu pendant quasiment 2 à 3 heures pour sécher et pour chauffer. Par la suite, elles vont transpirer. Et plus, justement, elles transpirent, plus elles se déshydratent, plus l'arôme se diffuse. Celles qui ont commencé à perdre de leur humidité, elles se
rident. Là, on voit qu'elles sont ridées.
Alors, elles sont quasiment prêtes. Par la suite, elles seront massées une par une.
Pour redresser la gousse.
Pour répartir les grains dans toute la gousse. Et masser surtout pour évacuer le reste de l'humidité par les deux bouts.
Et on sent hein, les odeurs de vanille. Hein.
Malheureusement, on ne peut pas l'enregistrer.
Merci Marion Sauveur. Mmh. Quelle chance. Chaque gousse, c'est une par une. J'aurais voulu être gousse de vanille, moi, franchement.
Oui, c'est vrai.
Ça fait rêver, ça, quand
même. Ça dépend, parce que là, vous rêvez d'être gousse de vanille en ce moment.
Oui.
Mais est-ce que vous savez, quand on utilise la vanille, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, on la fend en deux.
Ah, là, j'aimerais moins, là. Oui, c'est
mais
moins agréable.
C'est important de le rappeler. Systématiquement, quand on travaille de la vanille,
faut la gratter.
Voilà, faut la couper en deux. Et après, avec une pointe de couteau, gratter les grains.
Et alors là, on a ces grains de vanille qui sont et un petit
ça,
peu humides,
voilà,
même
voilà,
encore.
C'est ça qu'on utilise après quand on fait une crème
et
anglaise.
Et on ne jette pas après ce qu'il reste.
Voilà, alors ça, au départ, les grains, on l'utilise pour faire une crème anglaise ou alors faire des glaces vanille, des choses classiques. Et Olivier a complètement raison. Cette gousse, en fin de compte, où les grains ont été grattés, il faut la faire sécher. Vous la mettez au four à 100 degrés pendant 25-30 minutes. Elle va sécher. Et après, vous pouvez la mixer.
On en fait une poudre.
Voilà, on en fait une poudre.
C'est, ça. C'est ce qu'utilisent d'ailleurs les industriels pour donner la coloration et l'arôme vanille aux glaces. Voilà. Hein, c'est ça qu'ils utilisent, c'est pas l'intérieur. Hein.
Totalement. Et là, par contre, donc à la maison, quand vous avez fait ça, cette poudre, vous pouvez l'utiliser soit pour vous amuser peut-être à paner aussi un poisson. C'est très intéressant de prendre, par exemple, un filet de cabillaud, de le paner avec de la chapelure. Et dans la chapelure, vous intégrez une cuillère à café de vanille.
C'est bien, ça.
Et vous allez avoir un petit poisson pané avec ce petit goûter de vanillé qui est très agréable.
Et avec la blanquette, ça marche aussi. Une blanquette de veau à la vanille. Hein. On peut,
c'est merveilleux.
Dans la crème, mettre un petit peu de vanille comme ça. Olivier Pouls.
Sinon, cette poudre, vous pouvez aussi la mettre dans de l'huile, une huile d'olive ou une huile neutre. Elle va infuser, vous aurez une huile parfumée à la vanille pour la cuisson des poissons, des Saint-Jacques, un carpaccio de Saint-Jacques avec une huile à la vanille ou même des tomates en été, c'est magnifique.
C'est un bel accord, ça aussi, vous avez raison.
Et puis c'est le moment peut-être de rendre un petit hommage à un grand cuisinier disparu qui a fait un plat référence, le homard à la vanille d'Alain Sandérance, qui en a fait un des grands classiques de la gastronomie française.
Absolument. Et c'est vrai que ça marche aussi bien en sucré, bien entendu, la vanille. C'est la période des fruits exotiques, l'ananas, la mangue. On peut s'amuser à faire un ananas rôti avec de la vanille tout autour. Ça marche bien comme dessert express aussi.
Oui, complètement. Hein. Ça a carrément pratiquement piqué un ananas avec ses bâtons de vanille. C'est remarquable de le rôtir au four à basse température. Et c'est vrai qu'on a un arôme. Voilà. Si je dirais, c'est pareil, c'est deux produits qui viennent un peu, je dirais, des tropiques. Et donc, c'est
Ils ont un truc à se dire. La pavlova. Vous aimez la pavlova, messieurs, dames, dans le public? Ah, il y en a qui aiment. Madame est mitigée sur la pavlova. C'est une espèce de grosse meringue dans laquelle on va mettre une chantilly. Une chantilly bien vanillée que vous allez utiliser pour recouvrir cette meringue. Et là, on peut encore y aller avec des fruits exotiques, du kiwi, de la grenade, des petits dés de mangue. Et ça vous fait un dessert express qui peut même remplacer la bûche. Hein. On vient de passer Noël, mais on peut encore continuer avec ce genre de dessert. Olivier Pouls.
Dessert créé pour une célèbre ballerine russe, la pavlova, mais dessert créé, alors ils se battent, hein. On ne sait pas si c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Est-ce que le vin et la vanille se marient bien, Olivier Pouls?
Alors assez bien, notamment sur le vin blanc, parce que dans un certain nombre de vins blancs, notamment les vins qui sont élevés en fût de chêne, vous avez des arômes un peu vanillés. Le fût de chêne apporte au vin en général une note un petit peu vanillée, et donc c'est vrai que si vous jouez ton sur ton, avec notamment des jolis vins de Bourgogne qui, lorsqu'ils vieillissent, développe encore plus ces arômes de vanille. Vous pouvez avoir des associations intéressantes.
Europe 1, Laurent Mariotte. La table des bons vivants, le best-of.
Les agrumes, on se presse tous pour les déshabiller et les transformer en jus, par exemple. À propos, on a fait un sondage hein, sur le groupe Facebook des bons vivants sur la page Europe 1. Alors, au pays de la clémentine, du pomelot, du pamplemousse, du citron, eh bien, le pomelot dont on va parler arrive en dernière position après la clémentine, l'orange et le citron. C'est dire qu'il a besoin d'être réhabilité et mieux connu, ce pomelot. Pomelot qu'on confond souvent avec le pamplemousse, Olivier.
Ah oui, ce n'est pas du tout le même agrume. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas des frères, puisque le pamplemousse, qui esthétiquement lui ressemble un peu d'ailleurs, qui est assez gros entre...
Il est plus gros quand même. Hein.
Entre 1 à 3 kilos.
Ben hein, oui.
Le pamplemousse, ça peut être énorme, mais le pamplemousse, il vient d'Asie. Et il a une chair d'ailleurs qui n'est pas toujours très très juteuse. Le
presque sèche.
C'est
hein.
Parfois un petit peu sec. Alors que son ami le pomelot, eh ben lui, il est des Caraïbes. Et il est issu d'un croisement naturel entre le pamplemousse et l'oranger, ce qui donne un goût un peu différent, un peu acidulé. Moi, je l'aime beaucoup en réalité. et on en a là d'ailleurs.
Le pomelot qu'on appelle souvent à tort le pamplemousse rose, en fait,
ça
n'a rien à voir.
Et lui a beaucoup plus de jus quand on le presse. On en a.
On va gêner, on va le presser dans un instant et il se plaît bien en Corse,
Charlotte. Oui, cette terre d'agrumes qui est connue pour les clémentines, mais pas seulement, qu'en fait, c'est un terroir assez exceptionnel qui est situé en fait à la limite nord de la culture des agrumes. Et du coup, le pamplemousse s'y développe très très bien. Et d'ailleurs, depuis les années 90, il y a une IGP qui a été reconnue.
Indication géographique protégée.
Ouais. C'est ça. Donc ce littoral méditerranéen, il est idéal pour que le pomelot développe plutôt un goût, contre toute attente, plutôt sucré, plutôt doux, avec une amertume qui vient à la fin.
Alors comment prend-il le temps de s'adoucir justement le pomelot? Eh bien Frédéric Michel, notre correspondant dans le Sud-Est, s'est rendu à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, pour cueillir le pomelot avec Maurice Tamonte, qui est agrumiculteur, beau métier.
Plus on avance vers les températures élevées, plus il perd son acidité. À la limite, vous le mangeriez au mois de mai-juin sous nos climats. Vous auriez un fruit qui se rapprocherait de l'orange tellement il devient doux. Contrairement aux agrumes traditionnels que nous connaissons, citron, orange, mandarine, qui mûrissent avec le froid, le pomelo, lui, mûrit avec le chaud. On part d'un pomelo qui est encore assez acidulé au mois de décembre-janvier et on va vers des pomelos à mesure qu'ils évoluent vers mars, avril, mai-juin, très juteux et très doux. Un pomelo, plus il a un climat stressant, à la limite, et plus ça l'arrange. Donc nous sommes sur des zones ici, vallonnées, où on a les stress thermiques qui permettent à ce pomelo d'exacerber les arômes. Là, c'est pas l'orange, mais c'est pas loin. Ça, c'est bon. Hein.
Vous savez pourquoi il se plaît aussi bien dans l'État de Floride qu'en Israël et en Corse, Olivier, le pomelo?
Parce qu'il doit être cultivé pas très loin de la mer, en réalité, dans une bande en général d'une quinzaine de kilomètres de la mer.
Exactement.
Et je pense que c'est pour éviter qu'il y ait des grandes variations de température. La mer, vous savez, joue toujours un rôle un peu amortisseur pour les écarts entre la température du jour et de la nuit. Et puis après, il y a peut-être la magie des embruns aussi, même si le pomelo n'a pas vraiment un goût iodé.
Il n'est pas iodé, celui-là.
Mais peut-être que l'embrun lui va bien, comme nous d'ailleurs.
Il est riche en vitamine C, chers auditeurs. Si vous êtes en recherche de vitamines, pensez-y. Un demi-pomelo couvre 60% des apports en vitamines. C'est pas mal, hein, il est généreux. Et puis, il est accessible aussi. Hein. Le pomelo, à l'unité, ça coûte, ça dépend des magasins, des régions, s'il est bio ou pas, mais c'est entre 50 centimes et 2 euros maximum en fonction des endroits. Quoi.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'a pas extrêmement bonne presse. Hein, dans notre petit sondage, il arrive malheureusement bon dernier. C'est peut-être parce que les gens ont un rapport compliqué à l'amertume, qui est quand même une de ses signatures gustatives. Et pourtant, moi, je trouve que c'est sa force, c'est là tout son intérêt. J'adore la mer. Je trouve qu'il y a dans la saveur amère quelque chose d'extrêmement intéressant à utiliser en cuisine.
Oui, puis ça redonne une neutralité au palais. Ça permet de repartir justement vers une autre bouchée d'autres choses. Comment vous l'aimez, vous, en cuisine, Charlotte?
Vous voulez dire, à part dans la recette traditionnelle avocat, crevette, pamplemousse,
ah,
pomelo.
Ah, bah,
moi, j'aime beaucoup. Oui. Alors, moi, je ne fais pas la sauce cocktail.
Mayo,
je vais pas jusque-là.
Mayo ketchup
mais,
avec
une petite goutte de whisky dedans.
Ouais, c'est bien ça.
Mais moi, je l'aime bien comme ça. Hein. Je vous avoue, dans cette association dans cette salade, je trouve ça super. Bah, j'aime bien le vintage.
Mais avec
là.
Les crevettes sur le bord, ouais. Justement, du verre.
Il faut vider le pomelo pour le regarder.
Voilà, ça, j'adore. Mais ça, non, mais blague à part, c'est un mariage. Qui marche super bien. On en rigole, mais ça marche super bien. C'est très, très bon. Alors, pardon, comment vous aimez?
Moi, je l'aime bien comme ça. J'aime bien. Et puis, je rajoute peut-être même un peu de mangue. Enfin, je fais un peu à ma sauce, on va dire. Pas la sauce cocktail, mais à ma sauce.
Mais moi, je trouve qu'il se marie très bien, notamment avec les coquilles Saint-Jacques. On parlait des poissons de saison. La coquille Saint-Jacques, on est en pleine saison. Là, prenez des tout petits éclats, des tout petits morceaux de suprême de pomelo que vous venez juste déposer sur le dessus d'une coquille Saint-Jacques qui a été snackée tout simplement. Et c'est ce petit coup de tchac qui va donner dans la bouche, avec le sucré de la Saint-Jacques, ça se marie divinement bien. Il n'y a besoin de rien d'autre.
C'est vrai, ouais, c'est pas beaucoup d'ingrédients. Hein. J'ai fait une tarte inspirée de Joël Robuchon, qui est une tarte au pomelo et à la pomme. En compote, les deux. Je vous assure que c'est magnifique. Il y a le côté acidulé de la pomme qui vient titiller l'acidité et puis la petite amertume légèrement sucrée du pomelo. Ça marche super bien, ça. Et sur la Lune, en 69, lors de la mission Apollo, ils ont mangé du pomelo et de l'ananas parce que le centre de gravité fait que là-bas, bon, les papilles n'ont plus la même fonction. Donc, il fallait avoir des saveurs très vives, comme le pomelo et l'ananas, pour pouvoir ressentir quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont mangé en 69 sur la Lune.
Peut-être bientôt sur Mars, alors, maintenant, qu'on vient d'y envoyer.
Exact, c'est vrai. Oui, oui.
Europe 1, Laurent Mariotte. La table des bons vivants, le best-of.
Alors c'est vrai que les lendemains de fête peuvent être synonymes de lendemains de soirée un peu trop alcoolisés, même pour les chefs. Et c'est le sujet justement de Cuite, le livre de Victoire Loup, un livre avec 60 recettes pour lendemain difficile. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour Victoire Loup.
Bonjour.
Bonjour Victoire.
Dans quelle région vous êtes ?
Je suis à Cannes chez mes parents pour les fêtes.
Quelle chance. Alors vous êtes journaliste et consultante dans le domaine de la cuisine. Vous avez publié donc Cuite, des recettes pour lendemain de gueule de bois. Comment vous est venue l'idée ? C'est du vécu ?
Pas personnellement, parce que j'ai tendance à pas souvent voir à excès. Je crois que ma dernière cuite remonte il y a un an.
Ah, oui.
Mais mes éditeurs avaient eu l'idée parce qu'ils traînent avec beaucoup de chefs qui boivent un peu trop. Et ils m'ont approché pour qu'on écrive ce livre ensemble.
Alors on n'est pas là pour faire l'apologie de l'alcoolisme, bien entendu, mais c'est vrai que c'est un peu de circonstance. 60 chefs vous ont donné leur recette fétiche pour lendemain difficile, comme vous dites. Alors ça va de la soupe au pistou, au burger, en passant par des pâtes carbonara. Ça a été facile de leur faire jouer le jeu, justement, de « dis-moi ce que tu manges quand tu as une soirée arrosée ».
Une fois qu'ils avaient accepté, ils ont vraiment joué le jeu et ont raconté des anecdotes et des recettes franco. En revanche, beaucoup de chefs ont refusé d'être dans le livre par mesure de précaution.
Alors, on a souvent une envie de gras, de plats réconfortants pour éponger. C'est le cas de certains chefs dans votre livre. Je pense à Grégory Marchand, qui est le chef du Frenchie à Paris, avec son muffin aux œufs et bacon qu'il dégustait à Londres parce qu'il était le second de Jamie Oliver. Il y a Laurent Favre aussi, Laurent Favremaud à Dinan avec son croque-monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme autre exemple comme ça pour justement se faire plaisir avec une belle recette régressive ?
Alors, dans les recettes régressives, vous avez effectivement cité deux bons exemples. Il y a également le burger Pampa de Juan Arbelez. On a une sacrée collection de pâtes. Mais on a remarqué qu'il y avait finalement plein de catégories différentes pour affronter la cuite et pas que les recettes très régressives.
C'est vrai que oui, que notre corps, il a besoin de glucides, hein, après Charlotte.
Oui, c'est ça. Notre corps a besoin de glucides, donc par exemple de pâtes, hein, tout simplement, et de potassium. La tomate séchée, par exemple, en contient pas mal. Et donc celui qui a tout bon, qui coche toutes les cases, c'est Julien Duboué avec ses pâtes au ketchup basque. Vous avez aussi du potassium dans les haricots blancs, les haricots secs, les pistaches, les épinards.
Mais
creux.
Je suis d'accord, les pâtes au ketchup, c'est un vrai truc ça, parce que faut être honnête, Victoire, quand on a une soirée un petit peu arrosée, on n'est pas non plus complètement dispo pour faire une recette avec beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'étapes. Et je trouve que la recette de Julien Duboué, elle est complètement honnête. Ça me rappelle des lendemains de fête à moi, où je faisais des pâtes au ketchup et je mettais un petit peu de crème en plus et du fromage râpé, j'avais l'impression de faire de la grande cuisine quand même, vous voyez, le lendemain. Donc c'est vrai que ces pâtes au ketchup, elles font du bien.
C'est exactement ça. D'ailleurs, beaucoup des recettes sont finalement des recettes de fond de placard où on se débrouille sans avoir très envie d'affronter le froid et d'aller faire des courses. On fait avec des restes et les chefs nous racontent ça avec beaucoup de franchise.
C'est ça qui est très bien dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs teams. Il y a la team réconfort qui veut de la junk food et des choses un peu pour se reconstituer. Et il y a aussi la team healthy qui veut des bouillons, des choses assez saines. Et puis il y a aussi ceux qui veulent un coup de piment là, pour avoir un autre starter là, pour se remettre un peu en selle. Quoi.
Une soupe feu,
c'est
bien
vraiment
relevée
intelligent.
Avec des épices.
Moi, mon best-of ou mon best post-cuite, c'est la soupe à l'oignon, qui est quand même un des grands incontournables.
Mais c'est fait pour ça.
Traditionnel. C'est fait pour ça d'ailleurs. Ça a longtemps été paré de toutes les vertus pour vous remettre debout.
L'oignon, vitamine C dans l'oignon, le bouillon effectivement
avec ses
vertus.
Le fromage râpé et le pain, évidemment, pour venir tapisser un peu l'estomac, ça marche bien.
C'est vrai que les végétariens ne sont pas oubliés, hein. Charlotte le disait, Victoire, vous avez pas mal de recettes veggie aussi dans ce livre Cuite.
Oui, il y a des bouillons aux aromates comme de Fanny Ray, chef étoilée, qui était une ancienne top chef. On a beaucoup de plats avec des légumes ou des soupes, des minestrones, des soupes au pistou. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit salé, végé, sucré ou iodé.
Oui, le sucré aussi, c'est important. Voilà, il y a un bon carré de chocolat, c'est bien, mais il y a de belles recettes aussi.
Oui, il y a des smoothies. Le smoothie d'Angèle, de la guinguette d'Angèle, il est très bien. Il y a le gâteau aux pommes normandes de François Daubinet aussi, qui peut être très bien. Mais ce qui est bien, Victoire, c'est que dans cette façon de soigner le mal par le bon, c'est pas un hommage à l'excès, c'est un hommage à la fête aussi. Et dans cette année 2020, qui dans son ensemble est un peu un grand lendemain de fête difficile, ça réconforte, quoi.
Très belle conclusion. Charlotte, vous êtes d'accord, Victoire ?
Absolument, c'est un hommage au monde d'avant et bientôt au monde d'après.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Cuite, 60 recettes faciles pour lendemain difficile aux éditions Humaine.
Europe 1, Laurent Mariotte. La table des bons vivants, le best-of.
Paris-Brest, Opéra, Millefeuille, Saint-Honoré, Éclair. c'est des jolis noms, c'est autre chose que coronavirus quand même.
Ah, hein, c'est des noms qui parlent, c'est des noms qui amènent la boulimie, qui amènent la joie et la bonne humeur, Laurent.
Et quand on parle de dessert, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une personne qui s'invite à notre table régulièrement quand il y a du sucré, c'est Marion Sauveur.
Tiens,
bonjour
tiens.
Marion.
Bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver. Elle adore le
mais
sucré.
Oui, on
le
je voit suis sur gourmande.
Ah bah oui, puis, là, gaulée hein, sur Instagram, on vous voit avec vos petits desserts régulièrement, hein, Marion. Tiens, à propos, posez-vous la question aussi à la maison. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance typique de la pâtisserie du dimanche, Marion ?
Alors moi, c'est le fraisier. Vous savez, au printemps, c'était l'anniversaire de ma maman. Et donc, à ce moment-là, on avait toujours un fraisier à la maison.
C'est chouette, le
crémeux, cette crème avec les fraises bien fraîches. Là, j'adore.
Vivement le printemps. Hein.
Oui.
Olivier ?
Alors moi, c'était le merveilleux. Et on en mangeait chez ma grand-mère qui allait dans une pâtisserie pas très loin de chez elle. Et j'ai toujours une passion pour ce dessert. Très léger en même temps. Typiquement du nord de la France.
Ah oui, c'est
la
meringue.
Ah oui, c'est à Bruxelles.
Ouais. Meringue, crème fouettée, des copeaux de chocolat. Yves ?
Oh ben moi, en Béarn, de toute façon, le dimanche, c'est le gâteau russe. C'est une dacquoise avec une crème pralinée qui a été créée à Oloron-Sainte-Marie par la pâtisserie Artigarède. Ça fait la troisième génération que ça existe.
Ah bah dis donc.
Et là, il y a le fils Michel qui a repris le flambeau. Et en Béarn, il ne se passe pas une sortie d'église. Il ne se passe pas un apéritif. Il ne se passe pas un après-midi sans qu'on croque dans le russe de la maison Artigarède.
Et dans les Vosges, Laurent, alors
moi, c'était le Paris-Brest. Chaque repas familial. Non, pas le Paris-Épinal, mais le Paris-Brest qu'on allait acheter chez Ayotte, qui est une boulangerie-pâtisserie qui n'existe plus aujourd'hui à Thaon-les-Vosges. Et j'adorais effectivement ce moment entre le croustillant de la pâte à choux et puis cette garniture. Voilà, cette belle crème au beurre praliné. On en parlera dans un instant du Paris-Brest. Tiens, Marion, est-ce qu'il y a un truc pour savoir si on a affaire à un bon pâtissier, à part la queue devant le magasin ?
Alors déjà, c'est de savoir...
Le prix.
Le prix, peut-être. Mais si les pâtisseries, déjà, sont faites maison, il faut demander, regarder aussi, ouvrir les yeux, si elles se ressemblent vraiment toutes.
Mais vous avez raison, parce qu'effectivement, il y a pas mal de... Il faut le dire, il y a pas mal de pâtisseries congelées chez certains
Malheureusement,
pâtissiers.
Malheureusement,
oui. Pas tous.
Non, heureusement. Alors avec les yeux, il faut qu'elles soient belles, mais pas trop parfaites. Il faut qu'il y ait des petites imperfections, bien sûr. Puis je pense qu'il faut goûter, il faut acheter par exemple un éclair. L'éclair, c'est le gâteau idéal pour savoir si la pâtisserie est bonne.
C'est avec comme le fromage de tête chez le charcutier,
mais
c'est
oui,
pareil.
C'est ça.
Oui, c'est bien, ouais. La pâte à choux croustillante.
Pâte à choux et la crème pâtissière, il faut qu'elle soit
fondante, mais pas trop non plus.
Voilà, et un bon glaçage,
voilà.
Tiens, parlons un petit peu de l'histoire de l'éclair, Olivier. Vous qui êtes le monsieur histoire à la table d'Historiquement Vôtre avec nos amis Stéphane Bern et Mathieu Noël chaque jour à 16h.
Ah bah oui, l'éclair, c'est une des pâtisseries les plus populaires. Hein. Elle serait née vers 1850. Son ancêtre, c'était en fait ce qu'on appelle le pain à la duchesse. Au départ, il est long, il est fourré de crème pâtissière, il est riche en œufs et en sucre. On y ajoute de l'essence de café ou des copeaux de chocolat. Mais le glaçage pour finir la pâtisserie arrive plus tard. Hein.
C'est le
20e siècle.
Ah oui.
Et puis surtout, son nom vient du fait que, hop, on le mange
en un éclair.
Éclair.
C'est un coup de foudre pâtissier. Tiens, vos adresses pour acheter de bons éclairs, Yves.
Allez, moi je vais rester très béarnais parce que ça m'a bercé toute mon enfance. C'est la pâtisserie Saint-André, Jean-Guy l'Étendard, qui fait un éclair, je peux vous assurer, un éclair au café. Là, c'est l'équilibre parfait entre le croquant, le crémeux et l'amertume.
Marion.
Les éclaireurs à Lyon sont spécialisés dans les éclairs et ils font un caramel au beurre salé qui est délicieux.
Ah bah une dernière pour la route, Olivier.
L'éclair de génie, évidemment, aussi, de Christophe Adam.
Christophe Adam, oui.
Qui a décuplé les éclairs sous toutes les formes possibles et imaginables.
Alors, autre douceur très appréciée et puis chasse gardée du pâtissier, c'est l'opéra, et ça c'est tout un programme aussi, Marion.
Ah oui, le gâteau a été créé en 1955 par Cyriac Gavillon.
C'est récent. Oui.
Oui, exactement. Et c'est sa femme qui a trouvé son nom opéra parce qu'elle trouvait que la surface lisse du gâteau, couleur ébène, ressemblait au plancher de la scène de l'opéra. Et est-ce que vous savez pour qui travaillait Cyriac Gavillon ?
Pour Daloyau.
Exactement, pour cette grande pâtisserie traiteur.
Oui, et Daloyau, c'était autrefois le pâtissier de Louis XIV. Hein, et on trouve encore aujourd'hui chez Daloyau des opéras. C'est un peu le début de la pâtisserie moderne, hein, ce gâteau effectivement carré, parce qu'avant, tous les gâteaux étaient ronds.
Oui, tous les gâteaux étaient ronds. C'est le premier, d'ailleurs, c'était un peu la spécificité de ce gâteau. Il commençait vraiment à réfléchir, à amener un visuel, à utiliser des formes géométriques différentes que le grand classicisme du rond.
Et puis, pas d'alcool dans le dessert.
Pas d'alcool, bien imbibé au café. Voilà, et un beau contraste, une fois de plus, entre un crémeux, le chocolat et l'amertume du biscuit imbibé au café.
Et moins de sucre, hein, c'est l'époque où on a commencé à désucrer un petit peu les desserts. Il y avait une guéguerre aussi entre deux grandes maisons autour de l'opéra. Hein.
Oui, alors, on n'imaginait pas que c'était Daloyau en fait qui avait créé ce dessert. On pensait que c'était Le Nôtre, puisque Gaston Le Nôtre a pendant très longtemps revendiqué en fait la paternité de ce gâteau. Mais en fait, sa maison a été créée en 1957, donc 2 ans après la création de ce gâteau. Et finalement, le journal Le Monde a mené l'enquête et en 1988 a expliqué que la paternité n'était pas en fait à Le Nôtre, mais bien à Daloyau.
Et ben voilà. Alors, une adresse pour manger un bon opéra ?
Pascal Lac à Nice.
Ah oui, absolument. Absolument, grand pâtissier. Allez, ne bougez pas, on continue à parler pâtisserie de pâtissier dans un instant. Du Paris-Brest au millefeuille, ça va fondre et croustiller. A tout de suite.
Europe 1, Laurent Mariotte. La table des bons vivants, le best-of.
Rassembleuses, réconfortantes, les pâtisseries artisanales du boulanger-pâtissier sont un vaccin contre la morosité. Alors avec moi pour en parler, trois becs sucrés, Marion Sauveur, Olivier Pouls et Yves Condebord. Mmh. Et à l'instant où je vous parle, on nous amène un très très beau Paris-Brest. On vient de parler effectivement de l'opéra et de l'éclair au chocolat. Maintenant, place au Paris-Brest et au millefeuille. On a fait un sondage, hein, Marion, sur le groupe Facebook des bons vivants sur Europe 1.
C'est ça, entre l'éclair, l'opéra, le millefeuille et le Paris-Brest. Et c'est le Paris-Brest qui gagne juste devant le millefeuille.
Ah, ben voilà, le Paris-Brest, pâtisserie préférée de nos auditeurs qui nous retrouvent sur le groupe Facebook des Bons Vivants, donc c'est limité. Moi, sur Instagram, je m'étais amusé à faire un petit sondage entre l'éclair au chocolat et l'opéra, et c'est l'éclair au chocolat loin devant qui a gagné aussi. Donc, vous voyez, chacun ses petites douceurs. C'est quoi la vôtre, Yves ?
Ah, moi, ma petite douceur, ça reste quand même le Paris-Brest. Voilà. En plus, je suis amoureux de vélo, Laurent.
Ah, mais oui, forcément. Voilà.
Mais ça y fait, le Tour de France.
Mais il est d'ailleurs avec son collant de cycliste. Il est venu en cuissard aujourd'hui, Yves Condebord.
Non, mais vous savez que ça a été créé justement par rapport à la course Paris-Brest. Ça a été demandé, c'est les fondateurs de la course qui ont demandé à un pâtissier, Louis Durand, qui se trouvait à Maison Lafitte, de créer un gâteau en l'honneur de cette course. C'est pour ça qu'il a fait cette roue de vélo.
Ça ressemble à une roue de vélo, oui.
Mais le plus beau, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, la pâtisserie Durand existe toujours à Maison Lafitte. Et on retrouve l'authentique Paris-Brest.
Alors là, on en a un authentique aussi.
Mais après en avoir mangé, il faut aller pédaler un peu quand même. Hein.
Ah non.
Bah, alors, c'est bon, mais quand même.
Non,
hein.
C'est onctueux, c'est moelleux.
Mais c'est léger.
C'est léger,
pas bon, mais...
Alors nous avons un authentique aussi Paris-Brest avec nous. C'est celui de Sébastien Godard, pâtissier parisien, qui est spécialisé vraiment dans les classiques. Le vrai Saint-Honoré, le vrai millefeuille, le vrai opéra. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Vous l'avez dégusté avant moi.
C'est un délice. C'est une pure merveille. Olivier, on ne peut pas dire qu'en ayant mangé ça après, on doit aller faire la sieste. Ce n'est pas possible. On est dans la légèreté.
Ah oui.
On est dans l'onctuosité. Je trouve qu'il y a un équilibre entre le praliné, la pâte à choux. C'est merveilleux.
Mais bien sûr, mais vous ne m'empêcherez pas de faire la sieste quand même.
Et ce petit croquant, vous le sentez, ce petit croquant?
Oui, c'est la pâte à choux traditionnelle avec des amandes hachées. Et à l'intérieur, une crème pâtissière additionné d'une crème au beurre quand même avec du praliné. Hein. C'est pas mal.
Mais c'est bon.
Et je crois qu'il met de la pâte de noisette en plus, Sébastien Godard, à l'intérieur aussi.
Je pense
aussi
que vous avez raison. C'est vrai que le fond de palais, on a ce côté noisette qui apparaît, qui est très agréable. Ça amène une longueur de bouche supplémentaire. C'est un petit régal.
On peut le dire comme ça, une petite pépite. C'est souvent détourné par les pâtissiers, Olivier. Hein.
Bah oui, je vous demandais tout à l'heure si vous mangiez du Paris épinal, mais effectivement, il y a beaucoup de pâtissiers qui sont amusés à le faire. Vous avez un Paris Rio, un Paris Deauville, par exemple, oui, que fait Eric Fréchon. Il y en a d'autres.
Le Paris Cancale, notamment, d'Olivier Rollinger. C'est un souvenir mémorable pour Christian et Joël, nos auditeurs, justement, qui nous en ont parlé.
Je crois même qu'il y a un Paris Rennes que doit faire Christian Lesquer.
Alors, puisqu'il faut terminer sur une note sucrée, hein, obligé, passons au millefeuille. Alors là, attention, on ne lésine pas avec la pâte feuilletée parce que c'est vraiment toute la structure de ce gâteau.
Ouais, c'est toute la structure de ce gâteau et surtout, c'est la pâte la plus délicate et la plus difficile à réaliser. Et c'est vrai que, honnêtement, les cuisiniers, on sait la faire, mais il faut la laisser faire aux pâtissiers. C'est eux qui ont la maîtrise et l'habitude.
On l'achète chez le boulanger-pâtissier.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre boulanger, vous lui demandez un morceau de pâte feuilletée. Il vous la vendra sans aucun problème.
On en trouve de très bonnes aussi, même surgelées, sans additifs, sans conservateurs. On sait de quand ça date, Olivier, le millefeuille ?
Alors oui, les premières traces, c'est 1742. Hein, c'est le cuisinier moderne de Vincent de la Chapelle. Mais à l'époque, il n'est pas du tout présenté comme aujourd'hui, puisqu'on parle plutôt de garniture avec de la marmelade, d'abricots, de la gelée de groseille, des framboises, etc.
Des confitures, carrément, à la place de la crème pâtissière.
Oui, mais parce que la crème pâtissière, elle arrive beaucoup plus tard. C'est 1873 et Jules Gouffet. Et à l'époque, le millefeuille est beaucoup plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trois couches de pâte feuilletée deux couches de
garniture.
Et est-ce que vous savez combien il y a de feuilles dans un millefeuille, tiens?
Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que vous avez compté?
Ah oui, ben, on le sait avec vous, c'est les tours qu'on fait en pâte feuilletée. Eh bien, il y en a 729.
Ah, pas mal, 729 quand même, ouais. Avec simplement trois couches.
Avec les trois couches et toutes les et tous les tours.
Et parce qu'il faut le rappeler que le feuilletage, c'est une pâte faite avec du beurre et de la farine. C'est ce qu'on appelle la détrempe. Il y a des pliages et c'est ces pliages, une fois à la cuisson, qui vont se développer et qui donnent plus de
729 feuilles.
700 couches, ah oui, c'est pas mal.
Moi, je suis désolé, Laurent, j'ai pas le temps de les compter. Je suis trop gourmand. Excusez-moi.
Vos adresses, tiens, pour acheter et déguster un bon millefeuille.
Alors,
Marion.
Avec glaçage, sans glaçage, et modernisé avec la framboise en été chez Alain Rolancy, c'est à Lyon, un meilleur ouvrier de France. Ils sont délicieux.
Yves, moi je vais aller en Bretagne. Je vais aller dans ça s'appelle la maison du boulanger, l'Anilis, dans le Finistère. Michel Izard, qui est boulanger, au départ cuisinier, boulanger, et qui fait un millefeuille. J'ai un souvenir exceptionnel. J'y suis allé, je comptais manger du pain, il m'a proposé un millefeuille, j'ai croqué dedans, j'ai oublié le pain. J'ai pensé comme millefeuille.
Ça, c'est beau, ça.
Non, mais c'était, Laurent, c'était soufflé. Ouais, c'était croustillant.
C'est ça qui est bon. C'est aérien, effectivement.
C'était aérien. Des fois, on les voit, voilà, c'est un peu maîtrisé, ces plats, tandis que là, eh bien, il était un peu comme une montgolfière.
Il faut du feuilletage.
Olivier.
Et en Haute-Garonne, Daniel Moreau, à la pâtisserie Benoît à Riom.
Eh bien voilà, de belles adresses. Eh bien moi, je vous conseille celui de Jacques Génin à Paris. C'est sur commande, il fait des pâtisseries dans sa belle chocolaterie. Et à propos de Jacques Génin, il a commis ce très beau livre, La merveilleuse histoire des pâtisseries racontées par Michel Tanguy. C'est chez Grund. C'est un très beau livre avec tous les grands classiques dont on vous a parlé, plus bien d'autres, effectivement. La brioche, le gâteau de Savoie, le moka, le Saint-Honoré, on aurait pu dire aussi.
Oui, complètement.
Eh bien, ce livre raconte la belle histoire de toutes ces grandes pâtisseries et on retrouve tous les desserts reproduits par Jacques Génin à l'intérieur. C'est la merveilleuse histoire des pâtisseries chez Grund.
Vous parlez de Jacques Génin, tarte citron basilic.
Ah, bah oui. Ah là là, oui. Ah bah il en fait tomber le plexiglas qui nous isole, dites donc.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
C'est l'heure d'accueillir notre invité. Co-fondateur du célèbre site satirique Le Gorafi, il joue avec l'absurde et l'actualité. Aujourd'hui, ce blaguiste, comme il se définit, sévit sur scène, sur Internet, à la télévision. Il vient de sortir chez First un livre qui s'amuse à décrypter les mystères de la vie quotidienne. Son titre, Pourquoi vous faisiez ça? Bah oui, on va lui poser la question. Tiens, bonjour Pablo Mira.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça va?
Ça va bien, comme
très,
vous
très bien.
Pourquoi vous faisiez ça aux éditions First? C'est votre livre qui vient de sortir. C'est un super bouquin. C'est très bien écrit. C'est très drôle. Et puis c'est toujours bien sourcé, comme on dit, parce que ça part d'une vraie information.
D'une vraie observation, en tout cas.
C'est ça. Hein.
Ce livre-là, puisqu'il faut rendre à César ce qui est au Benjamin. Je l'ai aussi coécrit avec deux autres Benjamin qui ont bossé au Gorafi avec moi. Donc c'est Benjamin Maver et Benjamin Ifra, c'est des amis, c'est des potes et en même temps on est devenus amis via le Gorafi et c'est des machines d'écriture et on a vraiment écrit ce livre ensemble en se marrant, en essayant de trouver des observations vraiment absurdes qui avaient du sens, qui étaient vraies, qu'on pouvait tous observer dans la réalité.
On va en décliner quelques-unes, avant d'en décliner quelques-unes, je voudrais qu'on s'arrête sur le titre, pourquoi vous faisiez ça sans un non-sens qu'on n'a jamais compris, pourquoi vous faisiez cette faute de français?
Alors, ça m'a valu 2 mois de lobbying auprès de la maison d'édition pour que ça passe. Parce qu'au début, on dit qu'une faute d'orthographe, oui, c'est sympa, c'est marrant. Après, on se dit, c'est une grosse faute de français quand même. À un moment, il faut bien sortir du lot. Il y a énormément de bouquins. Donc, j'étais à deux doigts de mettre une tranche de viande des grisons en guise de marque-page. Je lui ai dit, j'étais à deux doigts pour... À un moment, il faut créer une valeur ajoutée. Bon, j'ai renoncé à l'appel de la viande en guise de marque-page, mais on a laissé la faute de français.
Il y a quelques allusions à la nourriture, justement. Les kebabs, le McDo, on va en parler. Mais tiens, un non-sens, une interrogation, un mystère de la vie quotidienne. Pourquoi les militaires sont en tenue de camouflage dans les gares?
Alors ça, c'est vraiment l'idée qui est à la base du livre. C'était une vanne comme ça, qui était dans un sketch ou qui était comme ça. C'était donc les militaires qui font Vigipirate en pleine ville et qui sont en tenue de camouflage forêt. Gare du Nord. Et donc en fait, c'est vraiment les personnes les moins bien camouflées de toute la Gare du Nord, parce qu'ils ont des fusils et des couleurs qui n'existent pas dans un milieu urbain.
Pourquoi les parachutistes ont un casque ?
Voilà, oui, ça
interpelle ça aussi.
Ça n'a pas de sens. Après, moi, moi, j'aime beaucoup ceux qui viennent aussi de la pop culture. Celui qui me rend fou, c'est Cendrillon, le prince charmant. Il tombe amoureux de Cendrillon pendant un bal. Le lendemain, il part dans le royaume pour la retrouver. Il ne peut la reconnaître qu'au pied. Il ne pouvait pas se souvenir de son visage qu'il a vu la veille. A priori, c'est le coup de foudre. Et il ne peut pas la reconnaître au visage.
Mais c'est vrai. Ouais, c'est un conte, mais oui, c'est vrai. Oui, mais c'est la pantoufle de verre.
Oui, ouais, mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans le royaume qui chaussent du 38 en pantoufle de verre non plus? Pourquoi ils s'arrêtent forcément au premier pied qui fait du 38?
Vous faites tomber des mythes.
Non, mais tout est bien.
Je suis désolé. Mais c'est ce qu'il fait. Mais ça me met en colère, Laurent.
Il est peut-être fétichiste des pieds.
Oui, bah voilà, du verre et des pieds, on ne sait pas.
Et tout est bien vu dans ce livre. Et il est souvent question de nourriture. Par exemple, ce non-sens. Le grec est une spécialité turque.
Mmh. Oui, alors apparemment créé en Allemagne, mais on dit tous grec et ça n'a pas de sens. Après, moi, celui sur la bouffe, celui qui me fait peut-être le plus marrer, c'est les buffets à volonté asiatiques qui proposent des frites. Voilà, là, je me suis dit, on est dans une zone obscure de la réalité humaine, il faut en parler.
Donc on l'entend, vous aimez manger, Pablo Mira, quel est votre goût de la semaine, tiens?
Ah, le goût, c'est le goût de la sucrerie, c'est le goût des, allez, si on a le droit de le dire, des merveilleux de chez Fred,
ah oui,
que je donne à ma maman pour lui faire plaisir.
Vous avez parlé un petit peu de saveurs asiatiques, de nourriture asiatique. On a cru comprendre que vous aviez un faible pour les saveurs d'Asie. Donc Yves, vous allez nous parler un petit peu de cette nouvelle cuisine où les influences asiatiques, effectivement, sont très nombreuses et plus précisément les influences japonaises.
Oui, les influences japonaises. Pour la gastronomie française, il y a eu un virage assez incroyable et qu'on n'a pas tellement identifié, on en parle rarement. J'ai eu la chance de vivre une conférence de presse de Pierre Troisgros à la Maison du Japon, il y a quelques années, qui expliquait le choc qu'il a eu quand il est allé pour la première fois au Japon en 1966. Il est revenu et il a dit « Je change complètement ma cuisine ».
Et qu'est-ce qu'il a changé techniquement dans sa cuisine?
Première chose qu'il avait subjuguée, c'est les cuissons. On était sur une cuisine française assez traditionnelle de mijotage et de longue cuisson. Il s'est rendu compte qu'en fin de compte, on couvrait les vraies saveurs du produit. Alors l'exemple type, c'est le homard. Un homard, à l'époque, on le cuisait 25 minutes.
Ah okay. Oui.
Pire, quand il est revenu, entre 7 et 10 minutes. Les légumes, tous les légumes étaient bouillis en France. On faisait bouillir dans de l'eau.
Cuisson à l'anglaise. Oui.
Cuisson à l'anglaise. Il est revenu avec le croquant. Et l'exemple, alors lui, il fait ça en 66. Il y retourne au début des années 70. En amenant avec lui Roger Verger, Paul Bocuse, pour leur faire découvrir ce monde-là, un monde nouveau pour la gastronomie française. Quand ils reviennent de ça, Paul Bocuse crée la fameuse salade d'haricots verts croquante.
Qui a plu autant à Gomio et qui a fait rentrer effectivement Paul Bocuse dans l'ère de la nouvelle cuisine de
totalement
l'époque.
Mais la nouvelle cuisine part du Japon. L'historique de la nouvelle cuisine, ils l'ont découverte là-bas. Elle a complètement révolutionné.
Hein,
voilà.
Dans les plats un peu populaires qu'on peut trouver quasi tous les jours dans les bistrots et tout ça, est-ce qu'il y a des choses vraiment où on voit la marque de cette cuisson?
On la voit, oui, sur pratiquement tout. On a allégé, parce que la cuisine japonaise, c'était une cuisine qui est toute en subtilité, en fraîcheur et en humidité, alors que la française était quand même une cuisine assez ronde.
Okay.
Par exemple, ils ont retiré tous les féculents, toutes les liaisons qu'on mettait dans les plats classiques français, qui amenaient ces sauces un peu, voilà, qui tenaient au corps,
okay,
pour aller sur des choses beaucoup plus allégées. Mais c'est aller plus loin que ça.
Vous savez, comme il est attentif, on retrouve l'ancien journaliste, là, Pablo
Mira.
Mais
non, mais ça m'intéresse,
parce
qu'on parle
de
la gastronomie japonaise, et c'est l'une des premières qui m'a le plus interpellé.
Vous êtes allé à Tokyo, hein, vous avez...
Oui, j'y suis allé 6 jours et j'étais fasciné.
Le fameux menu dégustation vient du Japon. Quand ils reviennent, cette bande là de la nouvelle cuisine, quand ils reviennent de là-bas, ils créent ces fameux menus dégustation avec 10 plats différents en mini-portions, les petites miniatures. Ça nous vient du Japon. Et encore plus loin, le service à l'assiette. Je voulais que ça vienne du Japon.
Moi, il y a un truc qui m'avait saisi vraiment quand j'avais passé quelques jours à Tokyo dans la façon dont ils organisaient les restaurants, c'était la segmentation des spécialités. C'est-à-dire des restos qui ne font que des sushis, des restos qui ne font que des okonomiyaki ou quelque chose comme ça,
oui,
des restos qui ne font que des abats, que des tempura, et peu de mélange entre les deux. Évidemment, il y a des enseignes qui proposent des choses un peu plus transversales, mais une espèce de vraie segmentation de ce marché-là.
Ouais,
quoi.
Mais c'est vrai que c'est leur culture, comme les maîtres sushis qui, durant toute leur carrière, vont faire que des sushis.
Ouais. Il faut 10 ans pour faire un bon maître sushi, donc vous imaginez l'engagement que ça représente et tout ça, pour pouvoir être à la hauteur et ce respect du produit. Il y a ça aussi dans la cuisine japonaise, il y a ce lien avec le produit et ce respect du produit originel.
Alors, on avait ce lien aussi dans la cuisine française.
Bah, on l'a toujours. Oui,
on l'a toujours. Ouais. Quand ils sont arrivés au Japon, ils ont découvert le gingembre, ils ont découvert le wasabi, ils ont découvert la sauce soja, qui aujourd'hui font partie de notre cuisine
traditionnelle. L'eau potable aussi, qui a été inventée au Japon, je crois. Non, j'ai tenté.
Je vous écoute, moi. Le temps que ça monte,
c'était
je me suis
pour
dit,
voir si vous étiez vif.
J'ai essayé, je me suis dit, j'ai cherché. Et il nous a eu, il est bon.
Plus sérieusement, on parlait du respect du produit. Moi, j'ai eu la chance de visiter le marché de Tsukiji à Tokyo
ouais.
Qui a fermé. Là où il y avait justement les enchères matinales sur les tons, où il fallait se réveiller parfois à 2-3 heures du matin pour pouvoir y assister. Et quand on parlait du respect du produit, c'était presque de l'ordre du rituel. La vente et la découpe étaient même de l'ordre du rituel.
Ah, mais ça reste un rituel. Bon, ils ont refait maintenant un nouveau marché où il y a encore toutes ces ventes aux enchères. Et c'est vrai que pour eux, c'est un rituel. Mais moi, je voudrais conclure sur une chose importante, Laurent. C'est cette faculté qu'on a, la cuisine française, à aller chercher des idées extérieures, à se les approprier. Et à grandir.
C'est ce qu'on a fait. Donc la nouvelle cuisine française est une fusion entre la cuisine française traditionnelle et la belle cuisine japonaise. Voilà. On peut dire sans conclusion.
On a cette pertinence et c'est pour ça que je crois que la gastronomie française reste la plus belle.
Eh bien, merci Yves Condebord. Et tout ce qui a un rapport avec la gastronomie, vous le savez, vous le retrouvez dans votre boîte aux lettres sur Europe 1 en vous abonnant à la newsletter. C'est gratuit, la newsletter à table sur europe1.fr et vous l'aurez dès demain dimanche 10h dans votre boîte mail. Bon samedi midi à table avec nous et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Nous sommes en compagnie de Pablo Mira, l'homme qui manie l'humour satirique avec ce livre qu'on aime. Pourquoi vous faisiez ça chez First Edition? 101 non-sens qu'on n'a jamais compris et qu'on ne comprendra pas forcément après avoir lu ce livre, c'est ce que vous dites en sous-titre. En 2012, vous créez avec votre compère Sébastien Liebus le site d'information parodique et satirique, c'est ça qu'on aime, le Gorafi. Vous étiez un vrai journaliste au départ. Hein.
Ouais,
c'est amusant.
Je faisais de la télé, j'ai fait un petit peu de radio, je crois que je présentais quelques flash infos pendant une saison. Mais sinon, oui, je bossais surtout en agence de presse où j'enquêtais pour des docus qui étaient très 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 sérieux à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de blagues dedans.
Alors, certains de vos articles parodiques ont même été repris, c'est ça que je trouve génial, par de vrais sites d'information. C'est drôle et c'est effrayant à la fois. Je vous donne une information, messieurs. 89% des hommes pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. Et ben, c'était repris par l'AFP italienne, figurez-vous.
L'ANSA, qui est la grande agence de presse italienne. Et donc derrière, en fait, c'est comme en France. Quand c'est repris par ANSA ou comme l'AFP, c'est repris ensuite par tous les médias classiques. Et donc après, ça a été repris par le Corriere della Sera, qui est l'équivalent du Monde ou du Figaro en Italie, en termes de sérieux, de notoriété, de publication. Mais le pire, je vais vous dire, c'est un peu la partie affligeante, c'est que bon, le titre, il est là, il dit 89% des hommes pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. On se dit, ok, bon, pour tomber dans le panneau, faut pas beaucoup réfléchir. Mais ensuite, dans l'article, on disait quand même que 10 autres pourcents, donc on arrive à 99%, pensaient que le clitoris était une divinité égyptienne. Donc on était en lien avec les Isis, Osiris, machin et tout. Et le dernier pourcent n'en avait jamais entendu parler. Donc, dans l'article, concrètement, on disait que 100% des hommes français ne savaient pas ce qu'était un clitoris. Et malgré ça, ce qui est une absurdité totale, ça ne peut pas arriver dans la réalité. Ouais. Malgré ça, ça a été repris au premier degré. C'est une folie. Je vous raconte un autre titre que j'ai dû faire, je crois, en 2013 ou 2014, en lien avec la nourriture, justement, et qui a été repris massivement. C'était Toulouse, 2 points. Il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Puisque dans le sud-ouest, on dit chocolatine. Et cet article-là, il a été cru massivement, non pas par des journalistes, mais par des gens comme ça, dans le sud-ouest. Des gens qui disaient « Ouais, mais tant mieux, parce que les Parisiens, ils font chier à dire pain au chocolat, donc tant mieux qu'ils se soient fait abattre. » Et les Parisiens, ils ont cru parce qu'ils se disaient « Ouais, mais les gens du sud-ouest, ils sont tellement chauvins qu'ils sont prêts à abattre quelqu'un parce qu'il a dit pain au chocolat. » Ce qui n'arrive jamais dans la réalité. Bien sûr. Ce truc-là a été lu massivement et pris au premier degré massivement. Et là, ça disait quelque chose sur les croyances des uns et des autres en fonction de la région et de leur représentation de ce qu'étaient les Parisiens ou les gens du sud-ouest.
Pablo Mira est notre invité. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants.
Ah,
ça chauffe, attention. Hein.
Ouais, là, on est à point. Là.
Ah oui, ou saignant pour l'instant. Saignant. Quel est le goût de votre enfance?
Le goût de mon enfance, la pâte de haricots rouges. Ça a l'air un petit peu insolite comme ça, donc le yokan, hein, l'espèce de sucrerie japonaise, parce que le restaurant japonais, c'était l'événement, moi, dans ma famille. On y allait deux fois par an et c'était un dessert hyper rare à l'époque. Il y avait beaucoup moins d'épiceries japonaises sur Paris et tout ça. Et donc, c'était vraiment la rareté même et c'était vraiment un plaisir hors norme, quoi. C'était vraiment la rareté qui faisait l'événement.
Qu'on peut trouver comme ça dans des mochi ou dans des gaufres, par exemple, dans la cuisine japonaise. Votre plus beau repas, Pablo Mira?
Ah, alors, il est épique, hein, celui-là. J'en garde un souvenir épique, mais vraiment aussi positif que négatif. Hein. C'est-à-dire que c'était le 2023 à Ajaccio. C'était super, super expérience. Mais je suis ressorti de là avec un ventre gonflé jusqu'à la pomme d'Adam, mais tellement j'avais bien mangé, quoi. Je crois que je m'étais fait d'ailleurs une polenta au cèpe, et la viande c'était du sanglier, si je dis pas de bêtises, et c'était exceptionnel, et j'ai dû faire une balade digestive de 3 ans pour vraiment tu sais, éponger le truc.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte?
Le mango sticky rice. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le dessert justement qu'on retrouve. Je me rends compte que j'adore l'Asie du Sud-Est.
Ah oui, elle est
c'est
présente,
ce plat-là, donc c'est du riz gluant qu'on fait longtemps, mijoter dans du lait de coco avec du sucre de palme. Et à côté ou par-dessus, on met une mangue bien fraîche avec beaucoup, beaucoup de goût et parfois un peu de sésame par-dessus. Ça, c'est... Et j'ai envie de chialer, là. Là, je vous parle. Là, je suis en train de craquer l'armure.
On sent l'émotion. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Pablo Mira?
Des gens qui me font rire ou Blanche Gardin par exemple pourrait me faire marrer, je pense que ça pourrait être marrant de dîner avec elle. J'aimerais bien voir Emmanuel Macron pour voir ce qu'il est vraiment. J'ai jamais croisé. Je pense qu'on voit bien les gens pendant un repas, ils se détendent un petit peu.
Il s'est confié ici, c'est la première fois qu'un président se confiait sur ses habitudes alimentaires. Il nous a parlé de gibier, il nous a parlé de bécasse.
C'est un président de gibier, donc
c'est un président qui aime manger, qui connaît effectivement la gastronomie française et les vins. Oui, absolument.
Ok,
et pour finir, Pablo Mira, le mot de la fin, FAIM.
Addition, hein. Là pour le coup, c'est toujours un moment un peu compliqué.
Elle est pour nous.
Elle est pour vous.
Elle est pour nous.
C'est
on
oui.
l'apprend.
C'est oui.
Merci d'être venu nous voir, Pablo Mira.
Merci à vous, j'ai passé un bon moment.
Eh ben nous aussi, merci. Pareil. Pourquoi merci. Vous faisiez ça? On passe un très bon moment aussi avec votre livre paru chez First Edition.
Ça pour un euro. Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
La table des bons vivants, le best-of. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez à la table des bons vivants et bonne année encore une fois. On se retrouve ici pour le meilleur de la table avec les bons moments passés au studio Coluche. Alors dernièrement, nous avons reçu le comédien Philippe Torreton, amateur de belles tables, fils de paysan et fier de l'être,
comme de nombreux
auditeurs.
Oui, puis c'est un magnifique métier, c'est des gens qui sont investis.
Et fin connaisseur en vin aussi, hein, vous vous souvenez?
Aussi, fine fourchette et voilà. Fin dégustateur.
On va l'entendre dans un instant, mais avant, voici la comédienne Zabou Bretman qui nous raconte ses coups de fourchette. Et comme toujours ici, ça commence par son goût de la semaine. Quel est votre goût de la semaine, tiens, Zabou Bretman?
J'ai fait plein d'essais, parce que j'ai eu la chance d'avoir Anne-Sophie Pic qui m'a demandé de faire un burger pour son Pic Truck.
Et oui, son food truck, ouais. Effectivement. Oui.
Le food
quelle
truck.
Balade.
Quelle balade. Et alors, donc, j'ai adapté une recette, et donc j'en ai mangé énormément, parce qu'il faut goûter, évidemment. Hein. C'est là quand même, on ne peut pas
c'est
faire...
C'est vous qui faites la recette?
Oui, c'est moi qui fais la recette. Oui, parce qu'elle m'a dit on peut l'adapter. Puis quand ils ont vu que, oui, je cuisinais et que j'avais envie de la faire, cette recette. Donc j'ai adapté des boulettes que je fais régulièrement. Évidemment, je peaufine, j'améliore, je demande à votre avis. Le hamburger, il ne faut pas que ça soit sec. C'est ça le risque.
Du moelleux,
ouais.
Du juteux.
Ouais. Oui, parce qu'il y a du pain avec. Donc quand même, il faut que ce soit quand même assez tendre, pour qu'il y ait un liant. Alors moi, je mélange du veau et du bœuf tout le temps. J'ai rajouté un peu de ricotta pour le liant. Du parmesan. C'est comme si c'était, on va dire, une sorte de tartare italien.
Ah, ouais.
Coriandre ciselée, un petit peu de ciboulette. Je mets un tout petit peu de piment d'Espelette
pour
et puis je fais revenir, en général, un peu les échalotes dans du vinaigre pour ajouter un tout petit peu de...
Du peps.
D'acidité.
Ouais, et je trouve qu'il en manque encore un tout petit peu, mais ils vont m'aider.
Ah bah dis donc, elle est précise, elle est pointue. Hein.
Je ne sais pas qu'on recevait un grand chef.
Non, je ne suis pas. Non,
c'est
non.
La chef Zabou Bretman. Vous cuisinez avec les saisons, j'imagine, Zabou.
Hein? Quand même.
Alors justement, notre chef Yves Candebord, à côté de vous, aime les saisons aussi, et c'est la saison de la poire. Et vous allez nous aider à l'appréhender différemment qu'en dessert, tiens, la poire. C'est un fruit, mais on peut l'utiliser en garniture. Ça a l'air de plaire à Zabou.
Énormément. Super.
La poire, déjà, c'est un fruit qui a très peu de calories, qui est bon pour la santé et surtout pour la digestion.
C'est vrai.
Et c'est vrai qu'on connaît, tout le monde connaît la poire la tarte Bordaloo, tout le monde connaît la poire Condée, bien sûr, l'historique poire Belle-Hélène, mais peu de gens... La poire William, ça c'est encore autre chose lié, mais peu de gens l'utilisent en salé. Et c'est un fruit qui est super intéressant en salé.
Alors qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que là, vient de nous apporter une de vos créations, Yves Candebord, et c'est très très beau ça.
Ouais.
Je vais vous donner deux recettes très très simples. Il y en a une que j'adore, c'est la cuire dans du vin rouge. Alors, on prend un vin rouge qu'on sucre très peu, 50 grammes pour un litre.
Ça marche en dessert, ça.
Ça marche aussi en dessert, mais ça marche aussi, surtout en ce moment, ça marche en garniture. Vous allez la pocher dans le vin rouge, ça va lui amener un peu d'âpreté et un côté très joli, très bordeaux. Elle va se marbrer.
Belle robe, oui.
Et un accompagnement en ce moment, des canards. On a commencé la saison du col vert.
Ouais. Ouais.
Poire, canard col vert rôti.
Ouais. Ouais.
C'est beau et surtout, c'est bon.
Et qu'est-ce que vous avez mis par-dessus? Alors, là, c'est une charcuterie, on dirait. Hein.
Je ne vais pas vous cacher que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Et ça va vous intéresser parce que dans les cartons, j'ai retrouvé Figaro Magazine de 2010.
Dans lequel Zabou Breitman disait des choses.
Sur la poire?
Vous parlez d'un mec qui vous plaît, c'est poire gorgonzola.
Exactement, vous l'avez fait là.
Je l'ai adapté au restaurant. Moi, je me suis amusé à rajouter. Voilà, de la viande de grison avec...
Ah, génial. Voilà. Génial. C'est super bon.
J'ai poché...
Poire, gorgonzola. Elle est farcie, cette poire au gorgonzola.
Très simplement, la poire épluchée, légèrement citronnée, cuite à la vapeur.
Ah,
Je garde l'authenticité du goût. Je la dénature pas. Elle est tiède. Je pose dessus des morceaux de gorgonzola qui vont fondre légèrement, qui vont venir le crémeux.
Ah, oui.
Et je me suis amusé de rajouter cette protéine que j'aime bien, qu'on utilise aussi peu souvent à la maison. La viande de grison qui nous vient de la région des grisons en Suisse. Et qui amène ce côté un peu fumé.
La viande des grisons, moi je suis fan, totalement fan. C'est très léger également.
La cuisine, c'est comme la mode, hein. c'est des cycles. Vous aviez parlé de cette recette il y a 10 ans sans la viande des grisons, Zabou Breitman, mais elle revient complètement tendance quand on la déguste comme ça.
C'est super bon.
Et après, par rapport à ce que vous avez dit aussi, par rapport à l'hamburger, quand vous avez parlé du rajout de vinaigre, de l'acidité, je n'ai pas rajouté de vinaigre, mais j'ai rajouté un poivre.
Qui a un côté
très fruité, c'est le poivre de Sichuan. Qui a ce côté un peu piquant et surtout qui tire un peu sur les agrumes. Et c'est important.
Gorgonzola, viande des grisons.
C'est super.
C'est magnifique. Bravo,
chef. C'est joli. Elle est bien cuite, la poire. Je l'aime bien parce qu'il faut faire un peu gaffe de ne pas passer de l'autre côté. C'est-à-dire quand elle a plus de fermeté, c'est fini.
On l'entend, Zabou Breitman, vous aimez manger, vous aimez cuisiner. Vous cuisinez presque tous les jours, peut-être pas quand vous êtes sur scène, mais sinon, c'est une activité quotidienne.
Pour moi, c'est impossible de faire un truc pas bon. C'est pas possible. C'est comme si on... Je sais pas, c'est quelque chose qui a à voir avec une inélégance par rapport à la vie. Je peux pas manger un truc pas bon ou moche.
Le respect par rapport à soi aussi, pas manger des bonnes choses.
Ou pas beau, mais je mange toute seule. Si je me fais un truc à manger, ça va... Il y aura forcément un truc un peu sympathique. Il y aura quelque chose de joli ou d'élégant. Je ne peux pas manger n'importe comment. Non, ce n'est pas possible.
Alors là, on vient de se régaler avec la poire farcie au gorgonzola d'Yves Candebord, avec cette viande des grisons taillée très finement, un beau poivre par-dessus.
Alors, ça m'a mis en appétit.
C'est que le début. On s'est renseigné sur vos goûts, Zabou Breitman. Alors, je crois que vous aimez les patates douces.
J'adore, oui.
Les avocats aussi.
J'aime tout.
Le hachis parmentier au confit de canard, on m'a
dit. J'adore.
Et les tomates.
J'aime tout.
Alors, on ne va pas tout mettre ensemble parce que je ne suis pas sûr que ça marche au niveau des goûts. Mais regardez, on a prévu un plat du jour spécialement pour vous. C'est le chef Émile Cotte qui régale ce midi. C'est le chef du restaurant Bacave dans le 5e arrondissement de Paris.
Okay.
C'est une des nouvelles adresses de la capitale.
Ah, c'est super, il a fait un... Ah d'accord.
Dites, qu'est-ce qu'il a fait?
Là, ça a l'air d'être un hachis à la patate douce.
Ouais. Parmentier de canard.
Parmentier de canard, la patate douce qui doit être très sympathique, évidemment. C'est super beau.
On va vous présenter Émile Cotte. Tiens, c'est un ancien de Guy Savoie, de Frédéric Anton. Il est passé par des grandes maisons. Il a monté cette auberge avec des prix abordables. Et puis, il est très attaché aux bons produits.
Émile est très attaché aux bons produits. Et surtout, j'ai envie de dire, Laurent, c'est un grand gaillard. C'est ces personnages un peu presque de BD. Il est immense. Il est large.
Armoire à glace.
Il a une tête de chiribibi avec un sourire extraordinaire.
Et c'est marrant parce que ça a l'air très délicat ce qu'il fait.
Et c'est très délicat. C'est un très très joli cuisinier. Et il est du Limousin et il essaie de mettre en valeur systématiquement tous les produits de sa région. Et là, ce qu'on mange, c'est du canard qui a été élevé par son cousin, Didier Cotte.
Dans le Limousin.
Dans la Haute-Vienne, à Blon. Il met en valeur. Et quand vous voyez le plat, c'est vrai que le plat, quand on le voit arriver, on pourrait penser que c'est un peu roboratif. Moelleux.
Ah non.
La patate douce, elle est onctueuse.
Elle est croustillante à la surface.
Elle est légère.
Oui, la patate douce, elle est très, très, très fine, très tendre. Il y a quoi? Il y a un liant là-dedans?
Non, il a un peu de beurre peut-être, mais je suis même pas. Si, un petit peu de beurre ou de crème.
Je pense qu'il a dû cuire la patate douce, récupérer l'eau de cuisson et la détendre avec l'eau de cuisson.
Ah ouais, parce que
normalement, c'est plus serré et plus épais.
Et surtout, ça peut être plus gras. Tandis que là, on est sur de la légèreté.
Et pareil, le taillage du confit de canard.
Voilà, c'est très important.
Voilà, très, très.
Il y a de la mâche.
Effiloché et de la mâche. On parlait du chili con carne tout à l'heure. On retrouve presque cette texture du chili avec le canard là.
Et ça c'est Laurent, c'est taillé au couteau.
C'est pas haché,
c'est taillé au couteau. Mais c'est ça qui est beau aussi. Et des jeunes comme Émile sont en train de s'accaparer un peu les traditions, le fameux hachi parmentier.
Alors, Zabou,
c'est fabuleux.
De la noblesse, de la légèreté de l'onctuosité.
C'est monstrueusement bon, vous êtes d'accord?
Ah bah nous on est d'accord,
on n'est pas bien à table.
Oh là là.
On voulait votre avis parce qu'on sait que ça fait partie de vos plaisirs justement.
Ah ouais, il a marié les deux là, c'est génial.
Le hachi parmentier tout court.
Je vais vous dire un truc, j'aime pas trop normalement la patate douce. Je suis pas un fan. Mais là, je trouve qu'elle trouve complètement sa place et l'équilibre du plat est fantastique. Parce que la patate douce, ce côté sucré, justement, parfois est un petit peu écœurant.
C'est vrai.
Et là, on ne l'a pas du tout.
Non, non. Ah non, non, mais c'est extraordinaire.
Qu'est-ce que vous aimez cuisiner le week-end à la maison, Zabou Breitman?
Oh bah, pas que le week-end, n'importe quand.
Oui, c'est vrai, on a bien compris. Ouais, bah, tous les jours, c'est bien.
Un peu de tout. C'est difficile parce que c'est tellement... J'essaie de varier. J'aime toujours avoir de la verdure. J'aime toujours un peu de salade. Parce que j'aime le vinaigre.
Ah,
et je mélange les vinaigres, en fait. J'adore les sauces de salade. Donc, je mélange toujours un petit peu de soja, un petit peu de balsamique, un petit peu de vinaigre de cidre, et avec une bonne huile d'olive. Mais c'est toujours mélangé. J'aime bien quand ça... Alors parfois, ça peut piquer un peu.
C'est
dosé.
Je peux
râper un peu de parmesan dedans. Je peux mettre du gomasio. J'aime bien le gomasio. Et c'est... voilà. Et après, ça, les salades, j'adore. Je peux m'amuser à me faire un petit brunch que j'invente, je me trouve des petits... Je regarde aussi parfois ce qu'il y a dans le frigo, ce qui reste, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là?
Mais oui, des quiches fousitou, où on met tous les restes du frigo aussi, ça marche.
Voilà, ça la fousitou, et l'autre fois, il y avait des œufs, je me suis dit, oh là là, il faudrait quand même que je fasse un truc ou un gâteau. Et... Alors, c'était l'époque des Mirabelles, alors j'avais fait un clafoutis. Parce que clafoutis Mirabelle, c'est bien aussi.
Super bien.
Europe 1, Laurent Mariotte. La table des bons vivants, le best-of.
Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Torreton qui nous propose ce très beau roman « Une certaine raison de vivre » paru chez Robert Laffont. Et j'ai été surpris en préparant cette émission, Philippe Torreton, que vous étiez un enfant excessivement timide. On parlait de vos racines normandes et paysannes et vous étiez timide à l'époque.
Oui, très, très timide. Je me sentais en danger un peu partout. Enfin, je n'osais pas parler. Les cours de récréation étaient un enfer. De bruit, d'agitation, de fureur et tout ça. Et le théâtre, mon prof de français qui s'appelait Gérald Désir.
Quel beau nom.
Hein, bah oui. Et qui est mort quelques mois avant mon père. Donc je les associe vraiment. C'est deux naissances. Voilà. Mon père, biologique, qui m'a porté tout au long de sa vie. Et puis ce père qui m'a fait naître au théâtre.
Au collège, hein, c'est
au collège,
au théâtre,
en classe
au collège.
De cinquième, ouais.
Donc, et en même temps, vous avez souvent l'impression de ne pas être à votre place, je disais, un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de l'usurpateur quand on est reconnu comme vous l'êtes, comédien. Là, vous êtes romancier, c'est votre premier roman et septième livre. Mmh. Voilà, c'est bon, vous êtes adoubé quand même.
Oui, oui, puis en plus, il se vend très bien. Moi, je suis très content des chiffres de vente et tout. Et puis ça continue, etc. Donc, non, non, tout va bien. Mais moi, normalement, j'aurais dû être un stit ou... reprendre la ferme de mémé ou faire des choses comme ça. Enfin, être le premier qui fait du théâtre dans une famille, c'est à la fois réconfortant parce que quoi que vous fassiez, personne ne l'a fait, donc il n'y a pas d'élément de comparaison. Mais en même temps, ça entraîne des distances parfois, d'abord géographiques, il faut partir. Et puis dans la tête, cette façon de travailler comme ça par intermittence, etc. De travailler, de gagner parfois en très peu de jours, ce que mes cousins gagnent en 6 mois chez Renault, etc. Bon, c'est bizarre, mais après traverser 2 mois sans rien foutre, et puis etc. Tout ça crée une... Et puis on voit bien que Paris, enfin les plus snobs des Parisiens sont des anciens de province qui pincent leur province, en fait. Et que c'est eux qui font le snobisme à Paris. Qui veulent pas surtout qu'on revendique d'où on vient. Je me souviens d'un article dans Libé, alors ça se voulait une référence au roman d'Aragon, mais Le paysan de Paris, bon, c'est...
On voit bien que c'est un bon mot paysan. J'adore
mais bien
ce
sûr,
mot.
C'est bien sûr, mais dans la bouche de certains, c'est péjoratif.
Ouais, ça
mais
redevient faut... tendance. Il y a 15-20 ans, c'était honteux. Aujourd'hui, c'est quand même chic d'afficher des racines un peu paysannes.
Je trouve que c'est important de mettre les mots sur les vraies activités.
Exactement.
Il entretient le pays, le paysan.
Mais vous êtes fils de paysan, fier de l'être.
Oui, complètement. Mais oui, bien sûr, nous sommes nombreux à le revendiquer.
C'est comme vieux et vieille, pépé, mémé.
C'est ça. Mémère, pépère.
Voilà, c'est ça. Moi, je viens d'être grand-père depuis 3 mois. Et c'est Pépé, voilà. C'est comme ça.
Alors Pépé,
je peux pas écrire mémé et puis dire maintenant tu vas m'appeler Papiné ou Papouné.
On va vous faire boire Pépé maintenant.
Ouais.
On va vous faire boire Pépé avec un vin choisi par Ophélie Neyman qui est avec nous aujourd'hui, qu'on peut lire également dans le magazine M du journal Le Monde et dans le journal Le Monde. Et qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Un vin, je pense, qui va plaire à Pépé Philippe Toreton.
Oui, il paraît que vous aimez le Pinot de Nice.
Oui.
Et ben voilà. J'ai eu envie d'en parler, mais vous voulez dire deux mots peut-être dessus d'abord?
Parce que j'ai habité dans la Sarre, dans le sud de la Sarre, pendant 3 ans et demi. Et puis, on était... Alors, il y avait le Janière, il y avait tout ça. Et puis, il y avait ce Pinot d'Onis, là, et ce goût poivré qui me fascinait. Et alors après, suivant les viticulteurs, il est plus ou moins foncé, plus ou moins... Il peut être un peu presque rose,
oui,
un peu comme ça.
Très clair.
Et très clair. Et, mais ce goût de poivre, tellement bon. Ça va avec plein de choses... Du fromage de chèvre à la charcuterie, en passant par des plats plus forts. Et parce que ça aussi, il faut arrêter la dictature de ça, ça va avec ça, ça, ça va avec ça. Comme,
et si on veut boire du rouge avec du poisson, buvons du rouge avec
mais
du poisson.
Mais bien sûr.
On fait ce qu'on veut, exactement.
Voilà,
et là, vous voyez ces arômes de poivre, on les retrouve dans le vin que je vous ai servi, qu'elle est si bien avec les escargots qu'on a mangés juste avant. Vous avez vu comme ça allait bien? Parce que c'est léger et les escargots, c'est fin. Mais en même temps, il y a cette force aromatique de poivre. C'est pas un poivre comme la Syrah, c'est un poivre plutôt blanc, un poivre plus fin, mais très marqué quand même.
Quand on parle de Pinot, attention, c'est pas comme le Pinot, le cépage de Bourgogne, ça s'écrit pas P-I-N-O-T, c'est
exactement.
P-I-N-E-A-U.
Bravo pour l'orthographe, Laurent, c'est tout à fait
on
ça. Donc c'est un
vin,
cépage, c'est une variété de raisin. Le Pinot de Nice, c'est pas une appellation, c'est vraiment une variété de raisin, mais ça ne s'écrit pas comme Pinot blanc, Pinot noir, Pinot gris, etc. Ça s'écrit E-A-U comme Pinot des Charentes, mais c'est encore différent du Pinot des Charentes. Parce que le Pinot des Charentes, c'est un vin de liqueur. Alors celui-ci, localement, il portait un autre nom. Il s'appelait le Chenin Noir. Et là, on comprend mieux où on est peut-être quand on dit ça.
En Touraine.
Exactement, parce que le Chenin, c'est le raisin blanc de la Loire. Donc là, on est vraiment au nord de la Loire. Mais surtout, ce sont les coteaux du Vendômois et les coteaux de Loire qui font, qui utilisent le Pinot de Nice.
Ah, c'est bon.
On en trouve un petit peu dans les vins d'Anjou, un peu dans les vins de Touraine, de Valençay. C'est un cépage super ancien. On sait très bien qu'on le cultivait au Moyen-Âge, il s'appelait déjà comme ça. Et peut-être même avant l'an 1000, il était déjà utilisé pour faire du vin. Aujourd'hui, on le retrouve dans beaucoup de rosés pâles. Le Pinot de Nice est souvent utilisé pour les gris, ce qu'on appelle les vins gris, c'est les rosés très pâles. Mais moi, ce que je préfère, c'est là, dans les vins rouges.
Vous en parlez bien, vous avez l'air de bien l'aimer, mais pourquoi cet amour inconditionnel du Pinot de Nice?
Mais parce qu'il a du caractère, et ça c'est quand même assez chouette. Il y a les notes de framboise et donc les épices, le poivre dont on parlait au début. Et puis si vous ajoutez cette robe un peu pâle, un petit peu évanescente, qui parfois peut se colorer, et surtout son corps qui est très fin, qui est très souple, qui est plein de peps en fait, c'est souple et ça laisse une bouche fraîche, légère, ça laisse ce qu'on appelle la bouche fraîche. Ouais. Et ça... C'est génial parce que c'est jamais lourd. Donc c'est jamais lassant. On peut le boire à l'apéritif, à table, tout le temps, toute la journée, le soir, la nuit, au petit-déj. Non, pardon. Mais si on cherche des vins légers, des vins avec du tonus, et ben ce cépage qui était délaissé un temps parce qu'il n'était pas assez gourmand, ça fait vraiment un comeback détonnant.
Comment il s'appelle celui que nous dégustons?
Celui-ci s'appelle Picrocole. Vous savez, c'est le personnage de Rabelais dans Gargantua qui cherche tout le temps la bagarre. Et vous avez vu comme il est juteux, il est presque joyeux. Il est produit par Ariane Lenné, c'est le domaine de Montrieu dans les coteaux du Vendômois, entre 15 et 18 euros. Et je suis fan, ultra fan de ce vin.
Ne bougez pas Philippe Toreton, maintenant c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Ça va chauffer. Quel est le goût de votre enfance, cher Philippe?
Les tartines de lard, oui, c'est pas mal.
Ouais, c'est
la crème fraîche au petit déjeuner aussi, sur du pain gris
le
avec
Normand.
Du sel trempé dans le café au lait. Ça c'est mon enfance.
Le premier plat que vous avez cuisiné?
Ah là là là, c'est peut-être des tourtes.
Ah,
ouais. Je crois que c'est un des premiers souvenirs. C'est pas forcément le premier plat.
Oui, mais c'est un beau souvenir.
Ouais.
Votre plus beau repas?
C'est peut-être la nostalgie qui parle, mais c'est les repas chez mémé, avec les oncles, les tantes, les cousins et ce mélange un peu de longs repas qui n'en finissent pas.
5 heures à table.
On finit par s'ennuyer un petit peu. En général, il y avait toujours une entrée chaude, une entrée froide, un poisson, une viande et le fromage et le dessert.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Philippe Torreton ?
La famille, des amis. On ne sait jamais quel dîner. Parfois, il y a des dîners à l'improvisade qui se retrouvent. Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, je signais mon livre chez moi à Fontenay-sous-Bois, à la librairie mot à mot. Et puis, quelques copains, notamment Richard Kolinka.
Batteur de téléphone.
Voilà. Et puis, on avait un peu faim. Et j'avais rien, sauf de quoi faire des pâtes à l'huile et au piment et au persil, quoi. C'est pas mal.
Ah, mais c'est bon, ça.
Ouais. Ouais. Ah oui. Et on avait 2-3 bonnes bouteilles quand même. Et c'était, on était, c'était dehors, il faisait bon et tout. Merveilleux souvenir.
Et le mot de la fin, FIM ?
Je sais pas. Amusons-nous à bien manger, j'ai envie de dire. Soyons pas des dictateurs du goût et de la. Ne faisons pas peur aux gens avec des modes de cuisson, des températures au degré près, à la salinité, etc., le poids des aliments. Soyez libre, mais mangez bien, soyez heureux avec ça.
Instinctif et intuitif.
Oui, absolument, comme nos mémés, nos... Voilà,
on y revient,
cette
mémé.
Cette cuisine familiale où, voilà, on aura beau manger un très bon couscous, ça ne vaut pas le couscous de ma femme qui le tient elle-même de sa tante et qui, voilà... Et c'est comme ça.
Merci Philippe Torreton. Et votre ronde serviette, évidemment, est bien rangée dans le placard des bons vivants. Vous revenez quand vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, avec Daniel Picouli. Nous serons en direct. Et quelque chose me dit qu'on va parler galette des rois. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors brioche aussi, peut-être.
Oh, puis fève.
C'est vrai qu'il y a des camps.
Qui passe sous la table camp, pour oui. La distribution des bon, parts.
Eh bien, on verra. Au revoir, Olivier Pouls. Salut Yves Candebord. Bonne journée. Merci, ma fine équipe. Bon week-end sur Europe 1.